Bienvenue à ceux qui sont arrivés entre-temps. Alors, nous entrons ce soir dans la première étape, dans ce que j'ai appelé rentrer dans le tout accompli. Tout ce que nous allons faire à partir d'aujourd'hui, ça part de la victoire de Jésus. Nous n'avons pas à chercher la victoire elle a déjà été acquise. Et nous allons travailler à partir de la victoire de Jésus. Jésus a tout accompli, tout est sous les pieds de Jésus. Jésus a toute autorité et nous, nous sommes avec lui. Donc, Jésus a toute autorité, il a tout pouvoir pour restaurer n'importe quel enfant de Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. On a vu la semaine dernière juste 2-3 slides pour nous remettre un petit peu dans cette introduction qui est fondamentale puisqu'elle elle nous permet de comprendre la vie humaine. Elle nous permet de comprendre les enjeux qu'il y a sur cette terre, tous les combats que nous ne voyons pas avec nos yeux physiques, mais ce sont des combats célestes, mais ils ont des conséquences sur nos vies. L'explication biblique du pourquoi ce mal. On a vu que le mal dominait sur cette terre et elle domine les êtres humains. Pourquoi ces méchancetés? Pourquoi ces blessures? Pourquoi ces maltraitances? Pourquoi ce manque d'amour entre les êtres humains? Pourquoi ces trahisons entre les êtres humains qui sont censés s'aimer? Pourquoi ces abandons? Pourquoi ces rejets? Pourquoi ces humiliations? Les êtres humains sont tous, donc nous sommes tous, des victimes de la puissance du péché. Et tous, tant qu'ils ne sont pas revenus à Jésus, sont privés de la grâce de Dieu, de sa présence, de sa puissance. Nous sommes démunis sans Jésus parce que l'on a vu la semaine dernière que la loi du péché domine sur chaque être humain. Et donc, la loi du péché, c'est le mal dans toute sa puissance. C'est toutes ces blessures que nous nous infligeons les uns les autres. Donc, on a vu ce petit schéma la semaine dernière, qui est la réalité de cette vie déchue. Hein, cette vie que nous n'avons pas demandée, mais dans laquelle nous sommes. Nous aurions voulu une autre vie. Nous aurions voulu la vie bisounours, où on s'aime. Et il n'y a pas de raison d'avoir de la haine, d'avoir de l'amour. Mais malheureusement, on n'a pas hérité de ça. On a hérité d'une vie déchue. Et les conséquences, ce sont nos épreuves de la vie, les circonstances malheureuses de la vie à cause de cette vie déchue et les blessures que nous nous infligeons les uns avec les autres. Et on pourrait conjuguer ce verbe tellement il est vrai, tellement il est réel. Hein, ce verbe blesser, où on pourrait dire « je me blesse, je te blesse, tu me blesses, nous nous blessons ». Et on pourrait conjuguer ce verbe-là tellement il est réel pour chacun d'entre nous. Et c'est une réalité pour chacun d'entre nous. Personne ne peut échapper à cette vie de blessure. Depuis qu'on est petit, depuis qu'on est tout petit, on a subi des blessures. C'est ça la réalité. Et on a vu que pour comprendre la nature humaine, il fallait comprendre cette fenêtre de Johari, parce que si on ne comprend pas ça, alors on ne comprend pas l'être humain. Et si on ne comprend pas l'être humain, on ne va pas comprendre nos relations les uns avec les autres. Dans ce carré, dans cette fenêtre de Johari, il y a 4 carrés, ce qu'on a vu la semaine dernière. Hein. Et donc, un être humain, il est par nature complexe. Et ces carreaux-là, explique bien la complexité de l'être humain. Dans le premier carreau qui est ici, il est facile de comprendre puisque c'est un carreau ouvert. Il est facile de comprendre que c'est connu de soi, donc c'est le carreau que moi je connais, c'est les aspects de ma personnalité que je connais et que les autres connaissent aussi. Donc ce carreau-là n'est pas dangereux. C'est ce que je veux bien montrer aux autres. Ce que je connais de moi et ce que je vous montre quand je suis en société, quand je suis dans une relation avec quelqu'un. Le carreau 2 est déjà un petit peu plus compliqué, puisqu'il y a des choses que je ne connais pas en moi. ce qu'on appelle, on va le voir ce soir, le déni. C'est des choses que je ne vois pas, mais que les autres voient. Les autres voient, mais nous ne voyons pas ce qui se passe en nous. Et puis, nous avons ces deux carreaux-là qui sont les conséquences directes du péché. Puisque ici, caché, c'est connu de moi. C'est des choses connues de moi, des choses qu'il y a en moi parce que j'ai déjà expérimenté, parce que je l'ai déjà vu, j'ai déjà vu mes réactions, j'ai déjà vu mes dysfonctionnements, mais je les cache. Parce que c'est la partie de moi que je ne veux pas que vous sachiez. Parce que, ben, sans doute qu'elle n'est pas belle. Parce que si elle était belle, je vous la montrerai. Mais il y a des choses au fond de moi que je ne veux pas que vous sachiez. Parce que si vous le saviez, eh ben, peut-être que vous me jugeriez et que peut-être que vous auriez des mauvais jugements sur moi. Alors pour me protéger, je ne les montre pas. Je les cache. Mais ce qui est dangereux, c'est que dans ces choses cachées, il y a des choses que vous devriez savoir si vous êtes en relation avec moi. Parce qu'à un moment ou à un autre, eh ben, je risque de vous blesser. Et il y a des moments que vous ne vous y attendez pas. Parce que vous ne savez pas ce qu'il y a en moi. Et c'est ce qui se passe dans nos relations. C'est ce qui se passe quand vous rencontrez quelqu'un. Quand vous rencontrez quelqu'un, il vous montre la partie ouverte. Ici. Mais il ne vous montre pas cette partie-là. Parce que sinon, vous prendriez la poudre d'escampette. Et donc, c'est toute la partie séduction ici. Mais cette partie-là, il va falloir du temps pour la découvrir. Et notamment dans le mariage, notamment dans la relation du mariage. Comme j'ai dit la semaine dernière, c'est ce fameux adage qui dit que l'amour rend aveugle. D'accord ? L'amour rend aveugle, on ne voit pas ou on ne veut pas voir. Mais le mariage, lui, il nous rend la vue. Parce qu'une fois qu'on vit avec la personne, une fois qu'on est 24 heures sur 24 avec la personne, alors là, on ne peut pas garder tout caché. Il va y avoir les moments de stress, il va y avoir des moments difficiles où ben, la personne va faire émerger en elle, elle va amener à la surface ce qui était caché. Et qui était déjà là, mais qui était caché. Et quelquefois, quand on s'aperçoit de ça, il peut être trop tard. Parce qu'on s'est marié. Alors, une parenthèse, si vous avez l'intention de vous marier, faites les fiançailles. On appelle ça étirer le processus. Essayez que ça dure un bon bout de temps. Soyez pas trop pressé. Il vaut mieux découvrir à qui vous avez affaire. Parce qu'une fois qu'on est marié, c'est trop tard. Donc, il vaut mieux connaître le maximum de choses sur cette personne-là pour savoir qui on va marier. Je ferme la parenthèse. Et ici, une partie ici qui est inconnue de nous-mêmes et qui est inconnue des autres. Mais elle est inconnue de nous-mêmes, c'est des choses cachées, des choses qui sont peut-être enfouies au fond de nous, des choses qu'on ne sait pas, mais qui peuvent venir à la surface suite à un événement, suite à un traumatisme, des choses qui peuvent réapparaître et on se découvre des choses sur nous-mêmes jusqu'à la fin de notre vie. En fait, on ne connaît jamais vraiment quelqu'un. Voilà la réalité de l'être humain, voilà la réalité des relations humaines et voilà ce qui explique, entre autres, la difficulté de vivre en relation à cause de ce carreau-là. D'accord ? Parce que on a l'expérience d'être blessé avec des gens, donc on se méfie, mais on redonne une chance avec une autre relation et on se dit, parce qu'on est là, et on se dit, avec elle, ça sera différent. Avec elle, ça n'arrivera pas. Elle ne fera pas ce que les autres m'ont fait. Et puis en réalité, ben, y a toute une partie qu'on ne connaît pas ici. Donc, on finit, pas toujours, mais on finit par se fâcher, se blesser, se trahir, toutes sortes de relations difficiles. Tout ça pour vous dire que les relations humaines sont extrêmement difficiles. Et alors, à partir de là, à partir du moment où on sait à qui on a affaire, c'est-à-dire à des relations difficiles. Les êtres humains, on ne peut pas les changer. Les êtres humains, ils sont comme ça et on n'a pas choisi. C'est pas quelque chose qu'on a choisi, mais c'est quelque chose qu'on doit composer avec. On doit faire avec, puisque nous sommes des êtres de relation et on a besoin d'aimer et d'être aimé. C'est comme ça. Dieu nous a créés dans l'amour et notre nature à nous, c'est d'aimer avec des émotions. On n'est pas des animaux. On est des êtres humains qui avons cette capacité et ce besoin d'aimer et d'être aimé. Mais avec un contexte difficile. Si on était dans un contexte bisounours, ça serait facile de s'aimer. Mais avec un contexte comme ça, c'est difficile. Puisqu'il y a plein de dysfonctionnements qui apparaissent au fil du temps et qui viennent mettre des coups de canif dans la relation d'amour, dans la relation d'aimer. Donc ça explique simplement qu'on ne peut pas intervenir sur l'autre, évidemment, pour vivre sur cette terre. Si on ne peut pas intervenir sur l'autre, ça veut dire qu'on peut intervenir sur nous. Il n'y a pas le choix. C'est désolant peut-être pour certains, mais si tu crois que tu vas changer l'autre, je peux te dire que tu vas taper ta tête contre le mur. Il y a un moment où tu vas finir par abandonner parce que tu n'y arriveras pas. La seule personne que tu peux changer, c'est toi. Et c'est ce que Jésus nous dit. Tu vois, Jésus nous dit, tu vois les problèmes qu'il y a chez l'autre. Mais figure-toi que moi, je vois tous les problèmes qu'il y a chez toi et que toi, tu ne vois pas. Ah, c'est-à-dire, si on revient, on est ici. Nous sommes aveugles à notre propre état. Par contre, on voit très clair pour voir ce qui ne va pas chez l'autre. Mais pour voir ce qui ne va pas chez nous, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, Jésus nous dit dans Matthieu 7, 3, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère ?» de ton voisin, de celui avec qui tu es en relation, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou alors, comment peux-tu dire à ton frère, « Attends, laisse-moi ôter, mais tu ne vois pas qu'il y a une paille dans ton œil ?» Alors que toi-même, ce n'est pas une paille que tu as, c'est une poutre. Ôte, premièrement, la poutre de ton œil, et alors tu verras après comment tu peux faire pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Donc le travail et le changement ne peut se faire que sur nous. C'est ça la réalité. Je suis désolé, mais il n'y a pas d'autre solution. Donc, tant que vous serez à vous plaindre de l'autre, à regarder tout ce qui ne va pas chez l'autre, ça vous empêchera de guérir pour vous-même. Ça vous empêchera de rentrer dans la guérison. Parce que de regarder à l'autre, pendant ce temps-là, vous ne regardez pas à vous. Et donc, on n'avance pas. Et comme ça ne change rien de regarder à l'autre tout ce qui ne va pas, eh bien, vous n'avancez pas dans la vie. La seule façon de changer, c'est de dire « Je suis dysfonctionnel comme tout le monde, je vais corriger mes dysfonctionnements par la grâce de Dieu et avec le Seigneur. » C'est la seule façon de faire. Donc, c'est ça la restauration. Hein. La vie n'est pas quelque chose que l'on subit, mais quelque chose que l'on saisit. On devient responsable de notre vie. Et on regarde ce qui doit changer dans notre vie, ce qui n'a pas été dans notre vie jusqu'à maintenant, mais le Seigneur veut nous restaurer complètement. Il veut nous combler, il est venu avec des promesses, et il a dit, je veux pour vous une vie d'abondance, une vie de liberté. C'est cette vie-là que nous sommes appelés à saisir. Une vie de liberté, une vie d'amour, une vie que malgré tout ce que j'ai décrit, eh bien, on peut s'aimer. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'on peut s'aimer malgré tout le côté négatif que j'ai décrit tout à l'heure dans l'être humain. Donc, pour nous, ben, c'est mettre à jour et éliminer les conséquences du péché dans notre vie. J'ai appelé ça sortir les squelettes du placard. Nous avons des squelettes dans notre placard. Et quelquefois, ils sont bien enfouis. Nous avons des squelettes dans l'abandon, nous avons des squelettes dans les rejets, dans les humiliations, dans les trahisons, dans les injustices. Nous trimballons plein de casseroles avec nous. Et tant que ces casseroles ne sont pas réglées, eh ben, ils restent collés à nos basques. Et ils font partie de nous, ils font partie de notre identité et ils nous empêchent de vivre cette vie que le Seigneur a prévue pour nous. Donc, il faut commencer par le commencement. Il faut aller voir, ouvrir la porte, ouvrir les malles. Vous savez, en métropole, il y a plein de greniers. Il n'y en a pas trop à La Réunion, mais en métropole, il y a beaucoup de greniers. Et puis, il y a des grosses malles dedans. Et c'est là que sont enterrées les choses, les secrets de famille, tout ce qui nous est arrivé. C'est dans les malles. Et là, il va falloir aller ouvrir les malles et sortir toutes ces choses-là, les amener à la lumière pour qu'on puisse, avec le Seigneur, avec l'aide de Dieu, les guérir. Amen. Le psaume 32 nous dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. » Amen. Donc, nous sommes à cette première borne, la première borne de ce parcours, et je pourrais dire, pour la résumer, que cette première borne, elle pourrait avoir un mot. C'est une base. C'est-à-dire que si on n'a pas conscience de ce mot-là, alors on ne va pas aller bien loin. Il y a d'abord cette marque de caractère que nous avons besoin. Est-ce que quelqu'un oserait se lancer et dirait un mot? Hein? Dites-le fort parce qu'on est nombreux. N'ayez pas peur, lancez-vous. Quelle est la marque de caractère premier pour le changement? Hein? Elle a déjà fait, elle triche. Elle a fait. Vous avez entendu? Alors, il n'y a pas d'autres, ceux qui viennent pour les premières fois, d'après vous. Qu'est-ce qu'il faut pour rentrer dans la restauration? Ouais, qu'est-ce qu'il a dit? Bravo, bravo frère. L'humilité. Eh oui, c'est la marque de caractère d'un chrétien. Humilité, pourquoi? Ben on va voir pourquoi. Je ne vais pas tout développer maintenant. Regardez, l'humilité, c'est ne pas venir ici, ou même pour ceux qui viennent pour la première fois à l'église, ne pas venir avec nos certitudes. Mais être prêt à les remettre en question, ça s'appelle être enseignable. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme le royaume de la terre. Les règles ne sont pas les mêmes. Quand vous prenez Matthieu 5, vous voyez que Dieu est venu et son premier serment sur la montagne, c'est pour nous expliquer comment nous devons fonctionner sur cette terre. Et si vous regardez bien tous les préceptes de Jésus, on est loin de ce que la société nous enseigne. Et donc, on a besoin de dire, « Ok, Seigneur, tu connais toutes choses. Tu sais ce qui est excellent pour moi. Moi, je ne le sais pas. J'ai été éduqué dans une famille. J'ai vécu dans une société. J'ai été à l'école. Je suis rempli de principes, mais ce sont des principes de ce monde. Et j'ai besoin de les remettre en question si je veux m'approcher du royaume de Dieu, si je veux entrer dans le royaume de Dieu. Si je veux rentrer dans le plan parfait de Dieu, si je veux rentrer dans le tout accompli. Ce n'est pas avec ma justice à moi, ce n'est pas avec mes préceptes à moi que je vais pouvoir rentrer dans le tout accompli. Donc la première chose c'est que je vais te poser comme question, es-tu capable de te remettre en question? Es-tu capable de penser que tes certitudes peuvent être remises en question? Pas par rapport à n'importe quoi, par rapport à la parole de Dieu. Amen. Amen. Matthieu 5, 1 écrit ceci, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Les pauvres en esprit, eh ben, ce sont justement ceux qui sont capables de comprendre les choses de Dieu, qui sont capables de venir à Dieu, mais avec un esprit bien disposé, avec un esprit ouvert. Recevoir la parole de Dieu, c'est ça l'humilité aussi, c'est recevoir la parole de Dieu avec son cœur comme un enfant. La parole de Dieu ne se reçoit pas intellectuellement. Si tu viens pour essayer de tout comprendre avec ta manière à toi de comprendre les choses, tu vas te planter. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un de limité. Tu es limité dans le temps, tu es limité dans ton intelligence. Et donc si tu essayes de comprendre des choses qui font partie de l'infini, qui font partie de l'éternité, et de les ramener à ta petite conception à toi qui est limitée, ça ne va pas rentrer dans la case. Ça ne va pas le faire. Tu dois recevoir comme un enfant, avec un cœur d'enfant. L'enfant, il croit son papa, il croit sa maman. Papa a dit. Papa a dit. Il ne comprend pas tout l'enfant, mais il fait confiance à son papa. C'est un peu comme ça que le Seigneur nous veut. Il veut qu'on vienne à lui comme des enfants, en disant, Dieu, si tu as dit, c'est que c'est vrai. Si Dieu a dit, c'est que c'est vrai. Pourquoi ? Parce que Jésus est venu sur cette terre et il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit, je suis une vérité. Non. Il a dit, je suis la vérité. Donc, si tu ne viens pas avec ce cœur d'enfant, ben, tu vas venir avec les concepts de ce monde et là, tu vas dire, ben non, il n'y a pas qu'une vérité, hein, y a plusieurs vérités. Toi, tu as ta vérité, moi, j'ai ma vérité, ils ont leur vérité. Et non. Bibliquement, ce n'est pas ce que Dieu te dit. Dieu te dit, non, il y a une vérité. Donc déjà, il faut déjà comprendre ça pour dire, Seigneur, ta parole est la vérité. Et je vais me conformer à ta parole. Donc, c'est une preuve d'humilité versus une preuve d'orgueil. L'orgueil dirait, n'importe quoi. N'importe quoi, c'est quoi, comment ça peut être la vérité, ça? Et là, tu ne vas rien recevoir de Dieu parce que tu as déjà fermé la porte. Et si tu ouvres la porte, tu dis, Seigneur, tu me dis que ta parole est la vérité, alors je suis là pour écouter et recevoir. C'est de l'humilité. Matthieu 18, 3 nous dit ceci, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Donc, on enlève tout notre côté très intelligent, ou avec des grandes capacités, avec des certitudes dans notre cœur, et on enlève tout ça et pour dire, « Seigneur, je ne connais rien. » On se dépouille. On se dépouille. On dit, « Seigneur, je viens, je suis là ce soir devant toi, et j'avoue, je n'y connais rien. » Ça fait mal. Parce que si on a basé notre valeur sur notre connaissance, sur nos aptitudes, sur notre intelligence, ben notre valeur en prend un coup. Mais si on base notre valeur sur ce que dit Dieu, alors on n'a pas d'inquiétude à se faire. On n'est pas touché par ça. Puisque de toute façon, notre valeur ne vient pas de nous, elle vient de Christ. Donc, c'est l'humilité. Le chemin de l'humilité ouvre la porte de la guérison de notre âme, la guérison de nos souffrances, de nos injustices, de nos incompréhensions. Deux Chroniques 7, 14 nous dit ceci, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Dieu veut nous guérir. Dieu veut nous restaurer. Mais il y a une condition. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. » Amen. Et dans Michée 6:8, il est écrit ceci, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. » Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Oui. Quelqu'un d'orgueilleux ne pourra jamais rentrer dans le royaume des cieux. C'est pour ça qu'on parle de première borne, un état d'esprit. Dans quel état d'esprit es-tu ce soir? Est-ce que tu es venu pour recevoir des choses de Dieu? N'oublie pas que Dieu connaît tout de toi et qu'il veut te guérir. Mais il n'ira pas contre ta volonté. Il n'ira pas contre ce que tu penses. Moi, je ne connais pas ton cœur. Moi, je ne vois que des beaux visages, là. Mais je ne connais pas votre cœur. Mais Dieu connaît notre cœur. Dieu connaît notre cœur. Et l'état de ton cœur, de l'état de ton cœur, va dépendre ce que tu vas recevoir ce soir. Amen. Alors, nous entrons dans l'étape 1. L'étape 1 nous dit ceci. Nous avons admis que nous étions impuissants devant notre condition. Vous rappelez-vous, la loi du péché, hein, la condition, notre condition, c'est que nous sommes tous sous la loi du péché. Et que seuls, nous n'avons pas la maîtrise de notre vie, c'est-à-dire notre plein potentiel. Nous sommes plus que ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes plus que ça. Tu es plus que ce que ton passé, la somme de ton passé, a fait de toi aujourd'hui. Tu es plus que la somme de tes choix. Tu as un potentiel beaucoup plus important. Mais certainement qu'il est bloqué, soit par des blessures, soit par des traumatismes, soit par des addictions, soit par encore des façons de faire que tu as mis en place depuis que tu es petit et que, en fait, tu n'as jamais quitté, mais qui ne sont plus adaptées à une personne qui veut s'épanouir complètement. Cette première étape, elle nous conforte avec ce que l'on appelle le déni. J'en ai parlé brièvement tout à l'heure. C'est un état dont nous n'avons pas conscience. Un processus intérieur par lequel les personnes prétendent, à elles-mêmes et aux autres, qu'elles n'ont pas tel ou tel problème. On retrouve la fenêtre de Johari qu'on a vue tout à l'heure. Hein. Et le déni, c'est quelque chose, c'est un mécanisme qui nous est commun à toutes les personnes. D'où la difficulté de vivre ensemble. Puisque tu vois le problème, mais la personne qui est avec toi ne voit pas le problème. Tout juste si elle ne te ferait pas passer pour folle. Parce qu'elle dit, mais tu rêves, mais il n'y a pas de problème là, c'est toi qui s'imagines ces choses-là. Donc comment on peut avancer si l'autre ne voit pas le problème? Donc le mécanisme du déni, c'est quelque chose qui est caractéristique des gens et qui explique la difficulté de progresser dans les relations. Lorsque les gens de leur entourage essayent de leur faire remarquer que telle ou telle attitude est préjudiciable pour les autres, elles ne le reconnaissent pas, allant même jusqu'à se mettre en colère et se fâcher. Alors, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? Ben, pour ne pas créer de conflits à répétition et conserver une fausse paix, les personnes proches laissent tomber et finissent par être fatalistes au regard des problèmes de cette personne-là. Et on continue à vivre, mais on ne peut pas aller bien loin parce qu'on n'avance pas et que la personne ne veut pas avancer. Et quand c'est dans un couple, malheureusement, c'est dramatique, hein, puisqu'on s'en va tout doucement vers un couple de colocataires. Ben oui, parce qu'à un moment, on en a marre. On est fatigué de répéter les mêmes choses et de voir que rien ne bouge. Alors, on ne va peut-être pas forcément divorcer, mais petit à petit, chacun va prendre ses marques, chacun va trouver sa place, et puis le couple va continuer. Prout, le petit prout de la vie. On n'est pas heureux, on n'est pas bien, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est comme ça. C'est triste, mais c'est une réalité. Cette personne va se retrouver avec des étiquettes. Parce que tout le monde voit qu'elle a un problème. Donc quand les gens discutent entre eux, ils discutent de cette personne-là, et on en arrive tous au même point, on est d'accord sur ses dysfonctionnements, on est d'accord sur ses problèmes, et on va finir par l'étiqueter. Et oui, et son identité, ça sera ses problèmes. Et quand elle va découvrir ces étiquettes-là, eh ben elle va se fâcher, elle va être blessée. Elle va être blessée parce qu'elle va voir que tout autour de son entourage, c'est les mêmes étiquettes pour elle. Pour d'autres, leur dysfonctionnement est en partie conscient. Donc, ils comprennent, ils disent oui, c'est vrai. Mais elles ne prennent pas les mesures qui s'imposeraient pour éviter que cela se reproduise régulièrement. Il n'y a pas de volonté vraiment de changement. Ces dysfonctionnements sont bien souvent un poids pour elles-mêmes et aussi pour les autres. Et c'est bien souvent une source de conflits à répétition. On tourne en rond, on est toujours en train de se disputer et on dispute pour les mêmes choses parce que le problème n'est pas réglé. C'est ce que j'appelle le confort désespérant. Il y a une autre expression, le désespoir confortable. C'est-à-dire, je ne suis pas bien, mais je m'en accommode. Parce que le changement à faire est trop douloureux. Trop d'efforts à faire. Donc, bah, on n'est pas si mal que ça. C'est le côté égoïste qui ressort et il n'y a pas de changement. Ça nous entraîne dans un cercle vicieux parce qu'on n'est pas bien et on le reconnaît, mais pas au point de changer. Donc, il y a une souffrance en nous, d'accord? Ça entraîne des dysfonctionnements. Et comme c'est une souffrance, eh ben, on va devoir l'engourdir. On ne peut pas toujours rester à être mal dans sa peau, mal, mal, mal. Et donc, on va finir par l'engourdir. Et pour l'engourdir, il faut trouver du plaisir. Donc, on va trouver une activité, on va trouver quelque chose pour se faire plaisir, pour la récompense, et qui va essayer de compenser un petit peu ben, le mal-être qu'on a. Et ça s'appelle des addictions. Alors, au départ, ça peut être quelque chose qui apparaît très sain, hein, mais qui va au fur et à mesure commencer à prendre toute la vie de la personne, parce que l'addiction, elle a une propriété, une caractéristique, c'est qu'au début, elle se satisfait d'un petit peu, mais le corps s'adapte et il n'y a plus l'adrénaline qu'il y avait au début pour le petit peu. Donc, il en faut plus. Donc, il en faut plus et toujours plus. Et au bout d'un moment, on devient prisonnier de cette addiction parce que le corps réclame cette adrénaline. Et donc, on rentre là-dedans, mais finalement, eh ben, même ça, même cette addiction, eh ben, elle nous entraîne dans quelque chose qui est là pour nous détruire à petit feu, et que ce soit dans la relation ou même pour nous-mêmes. Et ça nous emmène à nouveau dans le confort désespérant, un désespoir fataliste, mal dans sa peau, des blessures, et on va générer des émotions telles que la honte, la culpabilité, la peur, des relations dysfonctionnelles. On retourne dans la souffrance et donc comme on souffre, eh ben, il faut à nouveau retourner dans l'addiction et c'est un cercle vicieux et on ne s'en sort pas. Et petit à petit, la personne se détruit. Nos comportements non appropriés, nos réactions désagréables, nos paroles blessantes, nos addictions nous empêchent de vivre des relations apaisées auxquelles pourtant nous aspirons tous. Puisque nous avons tous besoin d'être aimés et d'aimer. Mais malheureusement, nos comportements, parfois, prennent le dessus. Et au lieu de rechercher cet amour et de recevoir cet amour, eh ben, en fait, on reçoit les blessures des autres. Ces problèmes personnels et intérieurs sont le terreau pour détruire les relations en amenant les divisions, les conflits, les querelles, les divorces. Et ce n'est pas sans conséquence déjà pour nous-mêmes. À chaque fois que nous nous investissons affectivement dans une relation, nous créons un lien. Notre âme s'attache à cette personne. Ce lien, quand il est brisé, c'est notre âme qui se trouve déchirée. Et cela provoque des douleurs terribles. Plus nous avons été proches de cette personne, plus la douleur est intense et profonde, plus elle est difficile à guérir. Et notre réflexe sera toujours de rejeter la faute sur l'autre au départ. C'est toujours, quand la souffrance est là, on regarde toujours les torts de l'autre. C'est un réflexe que nous avons. Parce qu'il est toujours plus facile de voir ce qui ne va pas chez l'autre que chez soi. Mais nous focaliser sur les erreurs des autres nous amènera à développer de l'amertume dans notre cœur, c'est-à-dire du poison. Et ça va avoir comme effet de rendre notre cœur dur et de retarder la guérison. On rentre dans un piège quand on commence à voir où on en est aujourd'hui et qu'on met la faute uniquement sur l'autre. Parce qu'on va générer de l'amertume avec nos pensées toxiques et cette amertume-là va développer un poison que la Bible appelle amertume, c'est du poison de notre âme. Et malheureusement, le cœur qui est appelé à être tendre, le cœur qui est appelé à développer l'amour et les relations d'amour, eh ben, va s'endurcir et la personne va devenir de plus en plus difficile à vivre. Le début de la folie, c'est de croire qu'en faisant toujours les mêmes choses, les résultats vont être différents. C'est le début de la folie. C'est de croire qu'en faisant toujours les mêmes choses, les résultats vont être différents. Si tu fais toujours les mêmes choses, mon frère, ma sœur, eh ben, tu n'obtiendras jamais des résultats différents. Tu obtiendras toujours les mêmes résultats. Pour nous, chrétiens, disciples de Jésus, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Nous sommes là pour que cela cesse et amener la lumière sur ce qui nous est caché ou que nous ne voulons pas voir. C'est ça la restauration. La restauration, c'est de ne pas vivre toute notre vie de la même manière. C'est de dire à un moment, je vais regarder moi ma part. Je vais régler moi mes problèmes. De façon à ce que dans une prochaine relation, je ne développe pas les mêmes erreurs, les mêmes symptômes, mais qu'au contraire, je prends les choses différemment parce qu'aujourd'hui, je suis guéri. Mais tant qu'on n'est pas guéri, c'est pas la peine d'essayer de trouver une autre relation parce que ça va recommencer. L'amertume qui est au fond de notre cœur, elle apparaîtra à nouveau et à la moindre erreur de l'autre, les émotions reviendront et ça aura encore des difficultés dans la relation. Alors, sur ce chemin de la guérison, on commence par nous. Nous avons admis que nous étions impuissants devant notre condition et que nous n'avons pas la maîtrise de nous-mêmes. D'abord, nous commençons par le « nous ». Et là, on retrouve l'humilité. La plupart des gens aimeraient être libérés de ce qui les asservit, délivrés de ce qui les contrôle et les font souffrir dans le secret. Ils aimeraient être guéris dans le secret, dans la solitude, à l'abri des regards. Pourquoi ? Ben parce que derrière tout ça, bien entendu, il y a la honte, il y a la peur, il y a la peur du rejet, il y a la peur du jugement. Donc moi, je veux bien être restauré, mais c'est entre nous, hein. Faut que personne ne le sache. La guérison et le rétablissement de notre vie se produit grâce au soutien des autres. Amen. Malheur à l'homme seul, à celui qui n'a personne à qui se confier. Et ce n'est pas évident pour beaucoup de personnes. Parce que l'histoire de nos vies, c'est que comme on n'a pas eu de connexion avec Dieu, parce qu'on était séparés de Dieu, alors qu'on a été créé par Dieu et qu'on a été créé dans l'amour de Dieu, eh bien, cet amour qui nous manquait, on a été le chercher chez les êtres humains. Et c'est normal. Hein, notre papa, notre maman, les frères et sœurs, les copines qu'on a rencontrées. Donc, on a bâti notre vie avec cet amour. Et comme on l'a expliqué lors de l'introduction, cet amour, ben, malheureusement, il est imparfait. Et pourtant, nous, on se construisait. Et on avait besoin d'être aimé. Mais on n'a pas été aimé d'une manière parfaite. Et ça a eu des séquelles. Et ça nous a appris à vivre avec nos outils qu'on s'est forgés. Hein, de se protéger, d'apprendre à compter sur nous-mêmes, à ne pas trop se découvrir, à être dans un certain mutisme ou plein de dysfonctionnements qui ont été là pour nous protéger, en fait, des relations toxiques. Et ça a développé ce que la Bible appelle l'esprit d'orphelin. Apprendre à se débrouiller tout seul, à ne pas compter sur les autres. Et c'est un esprit d'orphelin. Et aucun de nous n'a été préparé, en réalité, à vivre avec un esprit d'orphelin. La preuve, c'est qu'on arrive sur cette terre, on ne peut pas se débrouiller tout seul. Si on n'a pas nos parents pour s'occuper de nous, ben, on va mourir. Donc en réalité, on a été créé pour se connecter les uns aux autres. Mais à cause des blessures, à cause des déceptions des relations, à cause de ce que j'appelle la grille de lecture, c'est-à-dire que notre sentiment à nous, c'est qu'on n'a pas été aimé comme on aurait voulu être aimé. On n'a pas été aimé comme notre sœur, on n'a pas été aimé comme notre frère. On va faire des préférences. Ça, c'est notre grille de lecture. Eh bien, quand on est petit, on vit avec tout ça plus ou moins inconsciemment. Et on se crée des jalousies, on se crée des choses où on a l'impression d'être rejeté. Les parents n'ont pas toujours le temps pour s'occuper de l'enfant. On a l'impression qu'on n'intéresse personne. Les parents ont reçu quelquefois une éducation difficile parce que les parents eux-mêmes, de génération en génération, ils n'ont pas appris à transmettre l'amour. Et donc, ce n'est pas qu'ils ne nous aiment pas, mais c'est qu'ils ne savent pas le transmettre. Et tout ça, on l'a subi, mais on n'a pas encore les outils. On n'est pas encore équipé, quand on est petit, pour comprendre tout ça. Mais ça crée des émotions en nous. Ça crée des sentiments en nous. Et ça nous forge. Ça nous apprend à faire attention, à se débrouiller sur nous-mêmes, parce qu'on ne peut pas compter sur les autres. Et puis, ça, tout ça va nous forger petit à petit, et ça ne nous emmène pas dans les meilleures conditions pour partager avec les autres. Et donc, on développe aussi Ben, un esprit d'orphelin, où même si on a du monde autour de nous, ben, on a appris à compter sur nous-mêmes. Et c'est pour ça que dans Romains, Paul dira que nous avons été adoptés. Vous voyez, quand on parle d'orphelin, on parle d'adoption. Et donc, on a été adoptés par le Père. Et maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes plus tout seuls. Mais peut-être que notre façon de faire, eh ben, elle est toujours là. Parce qu'on n'a pas encore enlevé tout ça. Et donc, on apprend petit à petit à faire confiance, mais toujours avec nos réflexes d'avant. Et c'est ça qui rend difficile les relations. Et la capacité de se relier à quelqu'un d'autre. Et pourtant, on a besoin des uns des autres. On retrouve encore cette humilité où il nous faut admettre que tout seul, on ne s'en sortira pas. On peut essayer, mais ce n'est pas comme ça qu'on a été créé. Alors c'est sûr qu'il faut apprendre à guérir nos blessures, il faut apprendre à aimer, il ne faut pas... Alors ça, c'est un autre enseignement. Mais il ne faut pas aimer en attendant des autres qu'ils viennent combler ce qui nous manque de cette enfance-là. Non, il faut apprendre qu'il y a plusieurs sortes d'amour, hein, et que nous avons besoin en premier de l'amour de Dieu. On a besoin en premier de cet amour parfait, de cette reconnexion avec notre Père qui vient nous combler de tout ce qui nous a manqué et après de ne pas faire peser sur les autres êtres humains, des besoins qu'ils ne peuvent pas nous apporter, qu'ils ne peuvent pas combler. Seul Christ peut nous combler. Seul le Dieu vivant peut nous combler. Et alors, à partir du moment où tu entretiens cette relation avec Dieu, que tu as une relation où son amour vient pénétrer ton cœur, c'est ce que la Bible nous dit, le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans nos cœurs, eh bien, petit à petit, la guérison se fait à travers cet amour qui est parfait. Parce que la grande différence, c'est que l'amour de Dieu, il est inconditionnel. Chose qu'un être humain ne peut pas faire. On a besoin de cet amour inconditionnel parce que cet amour inconditionnel, il nous donne notre valeur. On se sent aimé pour ce que l'on est. Peut-être pour la première fois de ta vie, quand tu rencontres le Seigneur et que tu sens cet amour, que tu reçois cet amour, c'est sans doute la première fois où tu te sens aimé pour ce que tu es. Alors que jusqu'à maintenant, tu étais aimé pour ce que tu fais. Quand tu fais bien, tu es aimé. Quand tu fais mal, tu es mal aimé. Et là, on a besoin d'être aimé pour ce que nous sommes, une créature que Dieu a fait. On a besoin de ressentir cet amour-là qui nous donne toute notre valeur. Sinon, on fonctionne comme ce monde et tu seras aimé pour ton apparence, tu seras aimé pour ce que tes aptitudes, tu seras aimé pour ton compte en banque, tu seras aimé pour tout ce que les autres attendent de toi. Mais ça ne sera pas toi. Ça sera ce que les autres attendent de toi. Mais la vraie liberté, elle est dans cet amour de Dieu où tu es aimé pour ce que tu es. C'est Dieu qui a tout accompli, c'est plus toi qui fais, c'est Dieu qui fait pour toi. Et toi, c'est juste parce que tu crois en Dieu que tu bénéficies de cette adoption, tu bénéficies de cet amour qui coule en toi et qui te guérit. Amen. Et tant qu'on n'est pas arrivé à cet endroit-là, on fera fausse route. On fera fausse route. Pourquoi ? Parce qu'on comptera sur des êtres humains qui ne sont pas capables, et ce n'est pas leur rôle, qui ne sont pas capables de combler tes manques. Tout ce qui t'a manqué, soit de génération en génération, parce qu'on reçoit un héritage, ou soit depuis que tu es petit, tout ce que tu as manqué, il n'y a que Dieu qui peut t'apporter ça. C'est une réalité. Si tu veux développer autre chose, tu te tromperas et tu te feras mal. Et c'est pour ça que les relations sont... les gens qui ne connaissent pas Dieu, mais même certains qui connaissent Dieu, eh ben, c'est compliqué. Parce qu'en fait, ils reproduisent toujours les mêmes erreurs. Ils croient toujours que ça, c'est une nouvelle relation. Et là, ce n'est pas pareil que la dernière fois. Là, cette fois-ci, je suis sûr de moi. Mais non, tu ne peux pas être sûr de toi. Le carreau 3, il est caché. Dans quelques années, tu verras la personne que tu as mariée vraiment. Mais si tu comptes sur elle pour qu'elle vienne combler tout ce que tu as besoin, alors oui, elle va le faire peut-être pendant quelques mois, elle va se démener, elle va tout faire pour toi, et tu vas dire, waouh, j'ai trouvé la perle. Mais très vite, la nature va le reprendre, et puis ben, tu vas découvrir une autre personne, et j'ai besoin, mais non, je suis fatigué, là, ça suffit. Et tu seras déçu. Tu crois que tu te seras trompé de gars. Mais non, c'est parce que tu as fait peser sur cette personne des choses qu'il ne peut pas répondre. Donc, être ensemble, c'est la force et le soutien de tous qui supplient à nos lacunes personnelles. C'est aussi le partage avec les autres qui nous fait prendre conscience que nous ne sommes pas seuls à vivre ces situations, ce qu'on appelle la communion de la souffrance. Donc, nous avons Dieu en premier et nous avons la communion en deuxième. On n'est plus seul. On peut partager les choses. L'autre réalité de la guérison, c'est d'accepter qu'aucun de nous n'est parfait et que nous pouvons tous faire des erreurs et nous blesser les uns les autres. Mais dans cette imperfection, nous essayons de nous soutenir et d'être cette famille que Jésus a voulu, remplie de miséricorde. Et cette famille, c'est l'Église. L'Église imparfaite, parce que c'est nous l'Église, imparfaite, mais on se soutient du mieux qu'on peut. Il y a Jésus, il y a Dieu, le Saint-Esprit, et puis, dans une moindre mesure, il y a nous. On n'est plus tout seul. Et il faut rentrer dans cet esprit où j'ai besoin des uns des autres. Et on a besoin de cette miséricorde. Je répète ce que j'ai dit pour la miséricorde, hein, c'est que d'accepter qu'on peut tous faire des erreurs. On est tous imparfait. Et donc, il y a cet esprit de miséricorde qui est nécessaire dans les relations. Mais si vous avez bien compris ce que j'ai dit, si on met Dieu en premier, alors on sera comblé par Dieu, on attendra moins des autres. Si on attend moins des autres, alors on peut leur pardonner des erreurs, des absences, des choses qu'on pensait qu'ils allaient faire mais qu'ils n'ont pas fait. Et on pourra leur dire le fameux « c'est pas grave ». C'est pas grave. Eh oui, tu t'es trompé, tu as oublié mon anniversaire, tu as oublié ci. C'est pas grave. Pourquoi ? Parce que celui qui me comble, c'est pas toi. Celui qui me comble, c'est Dieu. Donc, toi, tu viens après et donc j'accepte ton imperfection. Amen. Et là, on peut commencer à vivre des relations apaisées. Parce qu'on ne met pas la pression sur l'autre. Et parce qu'on a la vraie source. On est connecté à la vraie source. Amen. Heureux les miséricordieux, c'est ce qu'on est appelé à être. Hein. C'est pas grave, mon frère, c'est pas grave, ma sœur, c'est pas grave, mon chéri. Ça peut arriver. Ok. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Toi aussi, quand tu vas te tromper, tu seras content d'entendre te dire « c'est pas grave, ça arrive ». Amen. La miséricorde est l'ingrédient indispensable à de bonnes relations solides. La miséricorde permet de relativiser la blessure occasionnée par l'autre. Pourquoi ? Parce que si nous sommes honnêtes, nous avons tous la capacité de blesser, nous aussi, nos proches. C'est pour ça qu'on commence la restauration en plantant le décor. Hein, et qu'on est tous imparfaits, on est tous faillibles. Hein, et qu'il ne faut pas attendre la perfection de l'autre. Sinon, on sera déçu. Sinon, on sera blessé. Et ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est accepter. Évidemment, on n'est pas en train de parler d'abus. Hein, on n'est pas en train de parler de choses dysfonctionnelles à ce point-là. On est juste en train de parler que l'autre, avec l'autre, c'est ton ami, c'est ton mari, c'est ta femme, c'est ton meilleur ami, c'est tout ce que tu veux. Ben, l'autre, mais ne sera pas toujours au rendez-vous. C'est ça la réalité. L'autre ne sera pas toujours au rendez-vous. Mais si on veut que nos relations durent, on doit être capable d'accepter cette réalité. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui a oublié, mais demain, c'est toi qui vas oublier. Et donc, tu aimeras bien ce jour-là qu'on vienne te dire, c'est pas grave, je sais que tu m'aimes, c'est pas grave. T'as oublié mon anniversaire, c'est pas grave. Ma femme, elle aime les cadeaux. Il ne faut pas que j'oublie son anniversaire. on peut ajouter à ce qu'on vient de dire, ce verset de Jean qui nous dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Hein, c'est ce que Jésus dira aux pharisiens. D'accord ? Elle a péché ? Ben oui, ben d'accord, elle a péché. Mais alors à ce moment-là, vous êtes sans péché, ben allez-y, lapidez-la. Et tout le monde est parti parce que personne ne pouvait dire « je suis sans péché ». Donc, c'est une façon de vivre chrétiennement, mais je dirais bibliquement, les relations à partir de cette réalité. On a besoin de la miséricorde des uns des autres. Et parfois, on peut blesser, mais sans nous en rendre compte. Ça aussi, c'est que quelquefois, on blesse nos proches et on ne s'en est pas rendu compte. Okay ? Et là encore, c'est ce que Jésus dira à la croix. La dernière parole de Jésus, c'est « Père, pardonne-leur ». Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein? Et il faut qu'on soit conscient de ça si on veut sauvegarder nos relations, si on veut soigner nos relations. Rappelez-vous que dans l'introduction, ce qu'on a vu, c'est que si on veut vivre pleinement cette vie sur cette terre, eh ben, il faut qu'on soit en paix avec Dieu, évidemment. Il faut qu'on soit en paix avec nous-mêmes. Il faut qu'on ait fait la paix avec nous-mêmes. Et il faut qu'on ait fait la paix avec les autres. Et c'est l'entretien de ces relations-là qui va faire que la qualité de notre vie, elle va se faire ressentir. C'est dans la qualité hein, de ces relations-là. Donc, évidemment, ce sont des bases pour nous. C'est-à-dire que Père, pardonne-leur, parce que quelquefois, la personne va te blesser, elle ne s'en est même pas rendue compte. Elle ne s'en est pas rendue compte. Est-ce qu'elle ne t'aime pas ? Si, elle t'aime. Ben alors, tu pourrais dire, ben pourquoi elle l'a fait ? L'a fait parce que c'est compliqué, un être humain, il y a la loi du péché, il y a les dysfonctionnements, il y a... Et la personne qui dit ça, pourquoi elle l'a fait? Si elle pose la question, c'est qu'elle n'a pas conscience de la réalité de la vie et qu'elle ne connaît pas tout ce que je vous enseigne ce soir. On devrait plus poser la question, pourquoi? Je dirais même que le pourquoi est normal. Mais oui. Il nous arrivera de nous tromper. Pourquoi est normal ? Et pourtant, on pourrait dire, non mais quand même, pas elle, pas lui. Mais si, il n'y a pas d'exception. Mais ça ne remet pas en cause l'amour que nous avons les uns les autres. Et tout ça, ce sont des clés pour éviter que nous soyons blessés, que nous prenions l'offense. Que nous gardions notre cœur. Hein, qu'est-ce que Jésus, qu'est-ce que Salomon a dit, hein, lui qui avait reçu la sagesse de Dieu, il dit dans le Proverbe 4, 23, protège ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi ? Parce que de lui, de ton cœur, coulent les sources de la vie. Est-ce que tu veux que les sources de la vie coulent dans ta vie de tous les jours ? Ben, protège ton cœur. Que ton cœur ne devienne pas blessé, que ton cœur ne rentre pas dans l'amertume, que ton cœur ne génère pas du poison. Donc, pour ça, il faut comprendre qu'on a besoin de miséricorde les uns avec les autres. Et encore une fois, je me répète, je ne parle pas d'abus. Parce que abus, chez moi, c'est tolérance zéro. Si quelqu'un est dysfonctionnel et qu'il t'abuse, là, il est hors de question d'avoir de la miséricorde. Tu vois ? Parce que là, on n'honore pas Dieu. On honore Dieu avec des relations saines. Voilà. Et des relations où l'erreur est possible. Mais encore une fois, on pourra dire « c'est pas grave », honnêtement, hein, sans tricher, on pourra dire « c'est pas grave » uniquement parce que nous sommes branchés à la bonne source. Nous sommes comblés. Donc, l'autre fait une erreur. Mais ça ne vient pas perturber notre vie à ce point-là, puisque d'abord, on est comblé par l'amour de Dieu. Il faut respecter cette hiérarchie-là, c'est très important. Parce que si on met l'homme au-dessus de Dieu, eh ben là, on va tout foirer. Hein. Ton futur mari, celui que tu rencontres, ta future femme, celle que tu rencontres, elle ne doit jamais être au-dessus de Dieu. Elle ne doit jamais prendre la place de Dieu. C'est pas ton sauveur. C'est pas ton sauveur. Parce qu'aujourd'hui, tu commences à la connaître, tu es amoureux. Donc évidemment, hein, on a là encore une autre sorte d'amour qu'on appelle Eros. Donc aujourd'hui, tu es aveuglé par Eros. Mais dans quelque temps, tu vas rouvrir les yeux. Et là, tu vas faire comment? Si tu ne l'as pas mis à la bonne place. D'accord? Attends pas tout de l'autre. Attends tout de Dieu.
Amen.
Amen. Notre guérison va dépendre de notre décision d'aimer. L'amour sera toujours au centre de notre vie. Et cette décision n'est pas en fonction des attitudes des uns des autres. Ça, il faut bien comprendre. Nous, on a décidé d'aimer parce que c'est ce que Dieu nous demande. Vous rappelez-vous, à l'introduction, qu'est-ce qu'on a vu? Le commandement de Dieu. Aime Dieu de toutes tes forces, toute ton âme et de toutes tes pensées. Et ton prochain comme toi-même. Et Jésus répond au docteur de la loi qui lui posait la question, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, mais tu as bien répondu. Fais ça et tu vivras. Donc on voit bien que notre vie sur cette terre, elle est reliée à l'amour. Et l'amour peut être entaché, l'amour peut diminuer parce que notre cœur est blessé. Donc, notre guérison va dépendre de notre décision d'aimer, de continuer à aimer, d'accord? Et cette décision, elle n'est pas en fonction des attitudes, des réactions, des comportements des autres. Je fais une pause pour que ça monte au cerveau. OK? Elle est en fonction de notre attachement à Jésus et à son amour qui coule en nous. Je donne un exemple, tout bête. Hein? Mon frère Alain me fait une réflexion et il me blesse. Alors, je lui dis, ah ben, puisque c'est comme ça, moi je t'aime plus. Ça, c'est ce que j'appelle la cour de récréation. D'accord? Maintenant, mon frère Alain, il me parle, il me blesse, et moi, j'aime mon frère Alain. Est-ce que c'est lui qui doit décider de moi ce que je vais faire? Eh non. Donc, je vais lui dire, Alain, là, tu m'as fait mal, tu m'as blessé. Mais tu sais, moi, je t'aime, mon frère. Amen. Et je continuerai à t'aimer.
Aime-moi.
Voilà. Du coup, la blessure, la flèche qui est partie, elle a rencontré le bouclier de l'amour. Amen. Et elle est tombée. Amen. Si je n'avais pas réagi comme ça, j'aurais dit, oh, punaise, Alain, il m'a dit ça. Oh non, pas Alain. Oh là là, ça fait... Oh, je suis déçu. Oh, j'aurais jamais cru d'Alain. Ça y est, c'est foutu. La porte de la blessure est grande ouverte. Je vais commencer à murmurer, commencer à créer tout ça dans ma tête. Mais pourquoi? Mais pourquoi Alain m'a dit ça? Tiens, je ne comprends pas. Avec lui, ça fait 20 ans qu'on se connaît et tout, il me dit ça. Tiens, je ne comprends pas. Non. Il a juste fait une erreur. Il ne la voit pas. Il n'en a pas conscience. Mais ça ne remet pas l'amour en question. Et en tout cas, ma décision ne va pas se prendre parce qu'il a fait une erreur. Vous comprenez? Je décide de continuer à l'aimer. Et lui, parce que je vais prier pour lui, dans quelque temps, le Saint-Esprit va lui dire, « Et Alain, c'est pas bon ce que tu as fait à Bertrand. » Il va venir me voir. Et il va me dire, « T'es mon frère, l'autre jour je t'ai mal parlé. Excuse-moi. » C'est ça la vie avec Dieu. Et je dirais, « C'est pas grave mon frère, ça arrive. » C'est pas bisounours, ça. Ça, c'est pas bisounours. Ça, c'est la vie avec Jésus, ça. La capacité qui te donne à pardonner. La capacité qui te donne à continuer la relation parce qu'il y a une erreur. Mais j'ai pas mis Alain sur un piédestal. C'est ça qui va me sauver. Si j'avais mis Alain sur un piédestal, que mon identité, que ma valeur, elle dépend de ce que dit Alain. Mais là, je me serais mis en danger. Et beaucoup font cette erreur-là. C'est qu'ils ont placé une personne sur un piédestal. Et quand la personne ne répond plus à ce qu'elle s'attend, alors elle est blessée. Erreur. Mais c'est toi qui as fait l'erreur. L'autre, il est comme il est. Si tu commences à dire « c'est de sa faute », ben oui, c'est sans doute de sa faute, mais ça change quoi pour toi? Pour toi, tu es blessé. L'offense va commencer à travailler ton cœur. Et là, tu vas dire quoi? Je suis blessé, mais c'est de sa faute. Ben, ça ne change rien. Donc, elle a peut-être fait une erreur, mais toi, tu n'as pas su protéger ton cœur. Tu n'as pas su garder ton cœur. Et pourquoi tu n'as pas su garder ton cœur? Parce que tu avais mis la personne sans t'en rendre compte. Tu avais mis la personne là-haut. Là-haut. Elle était sortie du carreau numéro 3. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ben, on a tous été élevés avec cette idée de bisounours pour les petites filles que le prince charmant, il va toujours arriver avec son cheval blanc et il va venir me chercher. Et j'en suis sûr. Et tant qu'il n'est pas arrivé, c'est que je n'ai pas eu le bon. Mais je te dis, ça n'arrivera jamais. Le prince charmant n'existe pas. Le cheval blanc n'existe pas. Ça, c'est bon pour les petits-enfants. Maintenant, tu es adulte, réagis comme une adulte. Mets-le à sa place, ton gars. Mets-la à sa place, ta femme. Sinon, il va t'arriver des déboires. Tu ne vas pas comprendre le jour où ça va arriver. Mais elle était censée m'aimer. Ben oui, mais elle t'aime. Ah ben non, regarde ce qu'elle a dit sur moi. Ben oui, mais ça arrive, les erreurs. Il faut protéger son cœur. Amen. Aimer quand nous ne sommes pas blessés est relativement aisé. Mais quand la blessure se présente à nous, c'est de l'amour de Dieu que nous avons besoin pour continuer à aimer et protéger notre cœur. Eh oui, on a besoin que l'amour de Dieu pénètre en nous, coule en nous, parce qu'on a besoin de cet amour-là pour pardonner. Parce que si c'est simplement notre amour à nous, ben je peux vous dire qu'il n'y aura pas beaucoup de pardon dans la vie. Hein. Et qu'on sera blessé et blessé et encore blessé. Non, on a besoin d'aller chercher cet amour de Dieu, de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi pour pardonner à cette personne-là. » Et pardonner à cette personne-là, c'est retrouver la liberté. Je répète. Pour certains, pardonner à cette personne-là, c'est retrouver la liberté. Parce que tant que tu n'as pas pardonné, tu la retiens. Tu la retiens prisonnière avec toi, dans tes pensées, dans tes actes. Elle fait partie de ton quotidien. Elle est peut-être partie, mais en réalité, elle est toujours là. Parce que tu n'as pas pardonné. Pardonner, c'est relâcher. Pardonner, c'est OK. C'était la saison. On relâche. Tu vois, comme sur une mer, tu vois, on voit le bateau, on est accrochés tous les deux au même bateau. Et ça tourne plus rond, ou alors on tourne en rond, et on détache le bateau, pousse le bateau, vogue la galère, fais ta vie. Nos chemins ne se croisent plus, on a chacun son chemin. Et voilà, et tu retrouves ta liberté, c'est fini, et il n'a plus de pouvoir sur toi. C'est ça le pardon. Le pardon, c'est libérer quelqu'un. Tu vois, on croyait que, en réalité, c'est lui qui était prisonnier, mais en fait, c'est nous qui étions prisonniers de cette personne-là. Et parce qu'on ne lâchait pas, parce qu'on refusait de lâcher. On le tenait, ma vengeance, et là, je le tiens, là. Tu parles, ça fait longtemps qu'il ne pense plus à toi. Ah, je le tiens, mais tu ne tiens rien du tout. T'es prisonnière, c'est tout. Lâche-le. Voici la réalité de la vie. Est-ce que tu seras déçu de tes proches? Est-ce que tu seras déçu de ta hiérarchie? Est-ce que tu seras déçu de ceux à qui tu as rendu beaucoup de services? Amen. Est-ce que tu seras déçu de toi-même? Amen. Est-ce que cela justifie que tu ne dois plus les aimer? Amen. Vous avez tout compris. Il est fondamental que tu ne sois pas seul sur ce chemin de la vie. Et j'insiste, parce que c'est fondamental, Jésus a créé l'Église pour ne pas qu'on soit seul, pour qu'on soit les uns avec les autres. Si tu commences à dire « Non, moi je me débrouille tout seul », tu n'es pas dans le chemin de l'humilité, tu es dans le chemin de l'orgueil. Et tu t'en sortiras pas, parce qu'il y a des carreaux où tu vois pas ce que tu es. Et il faut que tu aies quelqu'un à côté de toi qui t'aime et qui a le courage de dire « Hé, t'es sur le mauvais chemin ». Hey, t'es en train de déconner. Arrête. Tu as besoin d'avoir un partenaire spirituel qui va te ramener à la raison, qui va te dire, hey, oh, t'as vu comment tu parles de cette personne-là? C'est pas bon pour ton cœur. Tu vas nous faire un infractus. Non, c'est le cœur spirituel, c'est pas le même. Ce partenaire de vie sera là pour toi. Il sera un véritable ami quand tu en auras besoin. Et même s'il fait des erreurs des fois, C'est ce que la Bible nous dit. Deux valent mieux qu'un. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Et celui qui dit ça, c'est celui qui a reçu la sagesse de Dieu, l'Ecclésiaste. Nous avons admis que nous étions impuissants. Ça aussi, ça fait partie du chemin de l'humilité. Nous sommes impuissants devant ce qui nous arrive. L'impuissance, c'est reconnaître que nous n'avons pas la capacité de résoudre nos problèmes par nous-mêmes. Et pour beaucoup, à cause de notre culture occidentale, c'est quelque chose de difficile à admettre. Parce qu'on se sent diminué, on se sent dévalorisé, avec un sentiment désagréable d'une certaine perte de contrôle de sa vie. T'es pas capable. Mais c'est tout le contraire que cette société nous enseigne. Cette société nous dit, tu es capable, vas-y, tu vas réussir. Mais cette société ne connaît pas la loi du péché. Chaque être humain a sur lui la loi du péché. Et la loi du péché est plus forte que notre volonté. Le paradoxe de cette première étape, elle vient du fait que reconnaître notre impuissance devient un puissant levier pour le rétablissement. Elle crée cette ouverture vers des nouvelles solutions, des nouvelles possibilités. Notre capacité à être transformée provient de la reconnaissance de notre incapacité à le faire par nous-mêmes. Bienvenue dans l'humilité. Tu n'es pas capable de t'en sortir par toi-même. Oh, ça fait mal. Mais c'est la réalité. On a besoin des uns des autres, on a besoin de Dieu. Par nous-mêmes, on ne s'en sortira pas. Ensuite, devant notre condition. Notre condition, c'est les conséquences déjà de notre héritage. On a reçu des choses de génération en génération. Ça nous poursuit, malheureusement. Et donc, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Et des expériences aussi qui ont traversé notre vie. Depuis qu'on est petit, malheureusement, je le répète, on est dans un monde déchu. Et dans un monde déchu, les circonstances ne sont pas toujours favorables. Beaucoup de gens ont été au mauvais endroit, au mauvais moment, malheureusement. Et ils ont rencontré la personne qu'ils n'auraient jamais dû rencontrer. Ça fait partie des circonstances de la vie. D'autres ont eu un accident et ça a contrarié leur vie. Ça fait partie des circonstances de la vie, malheureusement, des héritages. Tu as reçu peut-être de ton père une difficulté à transmettre l'amour, à transmettre la tendresse, à parler avec affection à ta femme ou à ton mari. On a tellement de possibilités, l'être humain est tellement complexe qu'on a une somme de difficultés, une somme de dysfonctionnements et qu'il faut reconnaître, les mettre à jour, les traiter, parce que ça nous empêche d'avoir et de vivre notre plein potentiel. Plein potentiel. Moi, par exemple, je suis en cours de transformation pour tout ce qui est tendresse, amour, toutes ces choses-là, c'est des choses qui m'étaient inconnues. Parce que je ne suis pas né dans une famille où on partageait l'amour. On partageait rien du tout. Et c'était comme ça parce que c'était des générations où c'était d'abord le travail, c'était d'abord avoir quelque chose dans ton assiette et après prendre soin affectueusement des enfants, franchement, ça ne faisait pas partie des codes. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'ai reçu, ni dans mon hérédité, ni dans ma vie d'enfant. Donc, quand tu arrives à la vie d'adulte, puisque tu n'as jamais vu ça, tu ne peux pas le savoir. Donc, en fait, tu es handicapé. Franchement, tu es handicapé. Et si tu ne le reconnais pas, tu ne guériras pas. Et alors qu'il y a cette capacité en toi, il y a ce potentiel en toi d'aimer. Ce potentiel-là, il faut qu'il soit mis à jour. Mais pour qu'il soit mis à jour, il faut guérir de ses blessures. Il faut guérir de ses manques. De ces manques d'approbation, de ces manques de reconnaissance, de ces manques d'affection. Tu as vécu avec ça, mais ce n'était pas la vraie vie, ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous donne un exemple. Mais on pourrait en citer plein comme ça. Et donc, eh ben, quand tu es dans cette vie-là et que tu es en relation avec les autres, eh ben, tous ces manques-là, et les autres, ils vont le sentir, ils vont le voir. Si tu es marié, ça va se voir encore plus. Mais il ne faut pas se résigner. Il ne faut pas se résigner. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est l'ennemi quelque part qui t'a empêché de pouvoir exprimer tout ce potentiel-là. Mais Dieu, lui, il veut que tu te restaurer pour que tout ce potentiel-là, il éclate. Il soit beau, il soit vrai. Vous voyez? Moi, j'ai découvert l'amour très tard. Et notamment la vie de l'Église, où j'ai découvert l'amour de Dieu pour des frères et sœurs. C'était extraordinaire pour moi. Parce que c'était tellement loin de moi, tellement loin de moi, parce que j'ai été habitué à vivre tout seul, à me défendre tout seul, mes parents ne s'occupaient pas de moi, et j'étais dans un petit village où il fallait se battre pour réussir à survivre. Et bien, moi, c'était mon quotidien, et donc j'étais loin de tout ça. Et après, j'ai appris à me débrouiller par moi-même, tout seul. Et je me suis construit tout seul. Parce que c'était comme ça. Pour moi, c'était la vie. Et donc, ce cœur d'orphelin, je peux en parler pendant des heures, parce que je connais bien ce cœur orphelin, où tu apprends à te débrouiller tout seul. Et même quand tu es avec quelqu'un, tu n'es pas vraiment avec cette personne-là, parce que tu es orphelin, parce que tu n'arrives pas à créer l'intimité avec cette personne-là. Et c'est ta vie. L'autre en souffre parce qu'elle attend des choses de toi. Mais toi, tu es tellement habitué à vivre dans ce côté orphelin, de te débrouiller par toi-même, de ne pas te livrer, de pas d'intimité. Mais pour toi, ce n'est pas grave. Pas de problème. Et tu vis comme ça. Tu vois? Et Dieu m'a amené dans une famille chrétienne où j'avais aucune chance, hormis l'Église, de fréquenter ces gens-là. Moi, je me suis fait par moi-même, je suis arrivé à être chef d'entreprise, et pour moi, petit garçon, le but du jeu, c'était ça. Le but du jeu, c'était de monter dans la hiérarchie sociale, un jour d'avoir de l'argent, un jour d'avoir une belle maison, un jour d'avoir une belle voiture, et des belles femmes. Et c'était ça la vie. Et donc, je suis arrivé à ce niveau-là. Bon, mon cœur était toujours vide. Je me suis fait piéger. Mais j'y avais cru. Et donc, j'étais dedans. D'accord ? Et donc, quand tu viens à l'église, c'est extraordinaire parce que tu rencontres des gens de tous les milieux, toutes les catégories sociales, des gens que dans mon milieu professionnel, j'avais aucune chance de rencontrer. Et là, c'est l'école de la vie. Et là, Dieu te donne l'amour pour les frères et sœurs. Est-ce que j'ai été blessé dans l'église ? Oui. Mais oui ! On n'est pas bisounours. Bien sûr que j'ai été blessé dans l'église. Est-ce que j'ai été guéri dans l'église? Ben oui. Je ne suis pas parti. Je n'ai pas pris la poudre d'escampette pour dire « Ah, c'est que des hypocrites là-dedans, je me casse. » Non, pas du tout. Je suis resté. Parce que le problème, c'était moi. C'était mon orgueil. Mon orgueil. Parce que je connaissais les versets de la Bible. Mais mon cœur orphelin, qu'est-ce qu'il faisait, lui? Il se croyait supérieur à tout le monde. Parce que j'avais des aptitudes, parce que j'avais fait mes preuves, parce que j'avais de l'argent, parce que j'avais une belle maison, parce que j'avais une belle voiture. Mais on fait preuve d'humilité. Enfin, en apparence, c'est un vernis. Mais en réalité, il faut que Dieu vienne nettoyer ton cœur. Il y a tout l'orgueil là-dedans. Et Dieu a fait son travail. Et ça fait mal. Je veux te dire que ça fait mal. Mais j'avais besoin de ça. Je ne serais pas là devant vous ce soir si j'avais gardé ce cœur orgueilleux. Donc il a fallu élaguer. Et ça fait mal. Il a fallu couper les branches qui n'étaient pas bonnes. Vas-y Seigneur, fais ton œuvre en moi. Ah ben oui. Chla. Jusqu'à ce que tu comprennes c'est quoi l'humilité. C'est quoi dépendre de Dieu. Mais la récompense, c'est que Dieu a changé mon cœur. Dieu a mis l'amour pour les frères et sœurs dans mon cœur. Et ce n'était plus par rapport à tel frère, telle sœur. C'était l'amour de Dieu qui débordait. Et quelle paix. Quelle paix, mais quelle restauration. Le petit garçon blessé, habitué à se débrouiller tout seul, à reculer les limites du mal, parce que d'avoir mal parce que tu as cette force de caractère en toi. Mais tout ça, le Seigneur a tout restauré. Alors, je ne dis pas que j'ai fini ma restauration, il me reste peut-être encore quelques bouts d'années pour m'améliorer encore, mais Dieu a fait un travail extraordinaire. Mais il a fallu que je sois transformé, il a fallu que je change. Ça fait 20 ans que je suis avec Alain. Si je le mettais là, il vous parlerait de moi, il dirait « J'ai vu les changements. J'ai vu les changements. » Amen. Mes enfants ont vu les changements. J'ai pu prendre mes enfants dans les bras. J'ai pu leur dire que je les aimais. Ce que je ne pouvais pas faire avant. Vous voyez ? On a besoin, chacun, s'il est honnête, chacun, s'il est humble, dit « J'ai besoin de toi, Seigneur, je veux changer. Je veux mon plein potentiel. » Je veux mon plein potentiel. Amen. Le problème dans la vie n'est pas d'avoir des problèmes, parce qu'on en a tous. Le défi consiste plutôt à les découvrir et à les résoudre. La guérison et le rétablissement, qu'ils soient sur le plan spirituel, émotionnel ou relationnel, débutent par une pleine reconnaissance de notre condition. Voici quelques sujets à confronter. Voici ce que vous pouvez travailler avec, comme exercice. Alors, n'oubliez pas à la fin, partez pas sans la feuille des exercices. Ça, c'est très important, hein, parce que ça vous fait travailler en profondeur. Mais en voici quelques-unes qui pourraient vous concerner, quelques sujets à confronter. Avoir des peurs ou des insécurités profondes. Avoir des excès de colère. Nourrir de l'amertume dans son cœur, du ressentiment. Avoir de la jalousie maladive. Être envieux des autres. Vouloir tout contrôler jusqu'à la vie des autres. Avoir des conflits à répétition, avoir des problèmes avec le pardon, entretenir des relations toxiques, vivre avec beaucoup de sentiments de tristesse sans raison valable, être rapidement découragé, être de nature pessimiste, avoir une mauvaise estime de soi, vouloir toujours avoir raison, etc. etc., etc. Là, il y a déjà de quoi faire. Là, il y a pour plus d'une après-midi, là. Mais déjà, bossez ça déjà, mettez tout ça à nu. Vous allez voir comment le Saint-Esprit va vous révéler les choses. Amenez une boîte de mouchoirs quand même. On va finir avec « On a perdu la maîtrise de notre vie ». Posez-vous les questions suivantes. Est-ce que je suis vraiment honnête lorsque je regarde à ma vie et que je considère que tout va bien ? Là, on n'est pas en train de dire « Salut, comment ça va ?»« Oh, ça va !» Non, là, on est sérieux. Est-ce que ça va bien dans ton cœur ? Est-ce que je fais suffisamment preuve d'ouverture envers les autres, prêt à les écouter et à me remettre en question ? Ou suis-je plus souvent enclin à me renfermer ? Rien d'extérieur ne pourra venir combler notre vide intérieur. Amen ? Aucun être humain ne pourra venir combler ton vide intérieur. Tout doit se passer à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça qu'on a besoin de laisser rentrer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va habiter en toi. Le Saint-Esprit va faire son temple en toi. Et c'est de l'intérieur que la guérison va se faire. Cherche pas ailleurs. Le Saint-Esprit habite en toi. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et de là, une fois en toi, il prend le contrôle. Si tu le laisses faire. Et il va te guérir de l'intérieur. Prends le temps. Prends le temps. Il va te guérir. Voilà ce qu'on devient dans cette nouvelle restauration, dans cette nouvelle naissance, cette vie éternelle. On est branché enfin à la bonne source. Nous sommes branchés à la bonne source. On reçoit l'amour de Dieu. On a cette communion intime avec le Seigneur. Les guérisons intérieures se font. Nouvelle possibilité pour ma vie. C'est un nouveau départ. Mais maintenant que tu règles tes problèmes, ça va prendre un peu de temps, mais maintenant que tu règles tes problèmes, tes prochaines relations ne seront plus les mêmes. Tu auras des relations harmonieuses, en liberté, épanouies. Pourquoi ? Parce que les mobiles seront purs. Tu aimeras pas pour ce que l'autre doit t'amener, ce qu'il doit combler. Non, tu l'aimeras pour ce qu'il est, pas pour ce que tu veux qu'il soit. Tu vas arrêter d'aimer une image. Tu vas l'aimer pour ce qu'il est. Et lui, il faudra qu'il t'aime pour ce que tu es. C'est ça le cercle vertueux. C'est de retrouver un amour avec des relations saines. Au fur et à mesure qu'une personne prend conscience de ses difficultés, elle se rend compte à quel point sa vie peut être en désordre. Elle a beau se débattre, elle n'arrive pas à changer. Elle fait des efforts pendant quelque temps, puis elle finit par reprendre ses mauvaises habitudes. La clé à ce moment-là ne réside pas dans des efforts par soi-même pour changer les conditions extérieures ou habilement réaménager sa vie, mais plutôt dans son désir de changer en profondeur. Un changement qui provient de son cœur. C'est ça, c'est là qu'est le problème, c'est notre cœur. Amen. Nous sommes entrés dans l'étape 1 qui constitue le point de départ d'un processus vers le changement. C'est la borne première sur le chemin de la transformation et de la guérison intérieure. Elle nous place dans le défi de la reconnaissance de nos faiblesses et de notre impuissance. C'est le début d'une marche dans l'humilité. Admettre notre impuissance n'est pas un signe de faiblesse, mais au contraire, c'est un signe de courage, d'honnêteté, de vérité, le début de la sagesse. La personne qui reconnaît sa souffrance a compris qu'elle avait un problème. Et c'est cette reconnaissance qui va lui sauver la vie et l'amener sur le chemin du rétablissement. Amen. La créature que nous sommes est appelée à se reconnecter avec son Créateur. Celui qui nous a créés est le seul capable de venir confronter nos souffrances, nos douleurs, nos blessures, même les plus cachées, même celles dont tu n'as pas conscience. Pourquoi ? Parce qu'il connaît toute ta vie. Il a toujours été là avec toi. À chaque moment de ta vie, il était là. Dans tes épreuves, il a souffert avec toi en silence. Il t'a gardé. Si tu ne l'as pas encore donné ta vie, il ne va pas s'imposer à toi. Il respecte trop pour cela. S'il vient habiter en toi, c'est uniquement par amour et parce que c'est le désir de ton cœur. Un cœur humble, un cœur qui vient vers son papa comme un enfant et qui décide de lui confier sa vie pour qu'il la répare et la transforme à son image. Amen. Dieu veut venir habiter, régner en toi, reprendre la place qu'il n'aurait jamais dû quitter. Ce soir, tu es à l'aube d'une nouvelle vie. C'est ton choix, ta décision, et cela engage ta vie ici-bas, et ça engage aussi ton éternité. Voici le changement que Dieu veut opérer en toi. C'est ce qu'on vient de voir, le cercle vertueux. Le défi pour toi, c'est lâcher prise, ne plus faire les choses par toi-même. Regarder à ton orgueil, regarder où ça t'a conduit jusqu'à maintenant. Dépendre de lui, avoir cette humilité que maintenant, il prend ta vie en main. Le mot-clé, c'est admettre. Admettre, reconnaître ta situation. Prendre conscience de ta situation. C'est la borne numéro un. Sans cette prise de conscience, sans cette volonté de lâcher prise, il ne se passera rien. On est appelé à se remettre en question. Amen.
Amen.
Alléluia. On va finir.